Blasphème, j'ai retrouvé cette ordonnance royale donnée par le roi Charles VI en 1397 qui décrit les peines encourues par ceux qui blasphèment. Ça commence par un très aimable salut. Tous ceux qui diraient paroles, injures et blasphèmes contre notre Créateur et ses œuvres, contre la glorieuse Vierge Marie, sa Mère bénie, ses saints et saintes ou qui jureraient sur eux seront mis pour la première fois au pilori où ils demeureront de 1h jusqu'à 9h. On pourra leur jeter aux yeux de la boue et autres ordures, sauf des pierres ou choses qui pourraient les blesser. Après, ils demeureront un mois entier en prison au pain et à l'eau. À la seconde fois, on leur fendra la lèvre supérieure avec un fer chaud jusqu'à ce que leurs dents leur paraissent. À la troisième fois, la lèvre inférieure. Et à la quatrième fois, les deux joues. Si par malheur, il leur arrivait de mal faire une cinquième fois, on leur coupe la langue en entier, qu'ainsi ils ne puissent plus dire de pareilles choses. Afin que notre ordonnance soit connue de tous et que nul puisse prétendre l'ignorer, elle sera criée et publiée en lieu et place publique. Alors évidemment, vous voyez comme moi ce qu'il y a de saisissant dans ce texte qui a été écrit il y a plus de 6 siècles, mais qui résonne dans notre époque pleine de pilori, d'ordures et de place publique.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Est-il déjà arrivé à mon invité de blasphémer, lui dont les mises en scène ont si souvent suscité la colère de ceux qui emploient ce terme plus souvent qu'à leur tour. Depuis une trentaine d'années, il explore la violence, le sacré, mais aussi la puissance des images. C'est à l'Opéra Garnier qu'on le retrouvera dans une dizaine de jours pour Il primo omicidio de Scarlatti, inspiré du mythe d'Abel et Caïn, l'histoire d'un crime fondateur qui dit quelque chose de notre humanité. Bonjour, Romeo Castellucci.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, et je crois que vous êtes l'un des artistes les mieux placés pour nous répondre, pourquoi aujourd'hui est-on si facilement accusé de blasphème ?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a un rapport névrotique avec la religion. Je pense qu'il y a un rapport plutôt, je dirais plutôt idéologique au rapport à la religion. Et donc, très souvent, c'est une matière qui est déjà en soi-même extraordinaire sur le plan culturel, mais a été transformé dans un outil politique et idéologique.
Oui, donc, ça dit quelque chose de notre époque, ça dit aussi quelque chose du sort réservé à la liberté d'expression. Dans un pays comme la France, par exemple, 4 ans après Charlie Hebdo, on y pense.
Oui, non, ça c'est vraiment étonnant, le fait qu'on constate que même aujourd'hui, certains sujets sont devenus presque impossibles à toucher. Mais justement parce qu'il y a, comment dire, un usage de tout ça. Je pense qu'il faut libérer, entre guillemets, certains arguments de l'idéologie. Donc il faut récupérer, revendiquer la liberté de traiter tous les arguments possibles.
Pour vous, Romeo Castellucci, quand est-ce qu'on blasphème ?
Alors, je crois que la blasphémie, c'est à voir avec la spiritualité, la vraie blasphémie. Blasphémie, ça veut dire prononcer le nom de Dieu dans une manière tordue. La blasphémie, par contre, ça peut être entendu comme un mot qui traverse notre vie quotidienne sur des aspects qui ne sont pas du tout religieux. Le rapport avec les autres, le rapport à l'art, c'est l'unique façon de rapprocher la divinité.
Oui, parce que votre théâtre, effectivement, s'est toujours inscrit contre l'ordre, établi contre les lois, contre les conventions, et d'abord peut-être contre les conventions théâtrales aussi. Comme si vous blasphémiez, quelque part, de ce point de vue-là.
Je pense que c'est, comme je l'ai dit, une attitude nécessaire. Pas parce que j'aime être provocateur, pas du tout, parce qu'il s'agit vraiment d'une sorte de nécessité primaire de former une pensée, donc au-delà de ce qu'on connaît déjà. Donc il s'agit d'une rencontre avec quelque chose d'inconnu pour la plupart, où l'erreur, s'est trompée. Ça, c'est la dimension fondamentale au rapport à certains thèmes, non? Le théâtre grec, la racine de notre culture occidentale est basée sur l'erreur. La tragédie grecque est le lieu de l'erreur. On se trompe. Mais cette erreur, c'est la naissance de la raison et de la pensée. Il n'y a aucune philosophie sans l'expérience de l'erreur.
Dans quelle mesure est-ce que la scène, pour vous, c'est un espace sacré, Romeo Castellucci ?
Le plateau, c'est un lieu qui n'existe pas, effectivement. Donc, ce n'est pas un lieu du monde. Le plateau, c'est une partie de la géographie qui n'existe pas. Donc, dans ce cas-là, peut-être, on peut le nommer sacré. Mais dire que sur le plateau, il y a un rituel, ça, pas. Ça, c'est pas possible. Il n'y a aucun rituel. Le théâtre est né quand le rituel tombe en crise. Donc, c'est plutôt une réponse à la manque du rituel. Par contre, oui, c'est sacré. Donc, ça veut dire séparé. Ça, c'est l'étymologie du mot sacer. Ça veut dire aussi la coupure. Quelque chose qui est séparé dans les autres ou dans les autres lieux. Et donc, certainement, le théâtre, le plateau, je dirais plus précisément, le plateau est un lieu sacré parce qu'il est séparé.
Quel rapport est-ce que vous entretenez, vous, avec la foi ? J'ai l'impression que chez vous, la foi est indissociable du doute, Romeo Castellucci.
Je crois. Moi, je crois que la foi est certainement l'exercice, je dirais en plus, l'exercice du doute. Je pense que la certitude est plutôt, comment dire, on a besoin de la certitude dans une expérience scientifique. Alors là, oui, il faut certainement pas avoir de doutes. Mais je pense que la foi, au moins comme on peut la voir dans la grande histoire de la mystique, par exemple, c'est l'exercice du doute entendu comme discipline. Il faut nourrir les doutes.
Vous êtes actuellement en pleine répétition de l'oratorio de Scarlatti, Il Primo Omicidio, qui raconte l'histoire du meurtre d'Abel par son frère Caïn. De quoi la figure de Caïn est-elle pour vous l'incarnation ? Qu'est-ce qu'elle dit de notre humanité, en fin de compte ?
Caïn, il dit presque tout.
Tout ?
C'est vraiment notre frère, oui. Et je pense que la chose extraordinaire de cet oratorio, c'est le fait que de la part de Scarlatti lui-même, mais aussi di Otto Boni, le librettista, il n'y a aucun jugement. Donc il y a plutôt une douceur à regarder ce personnage, qui encore une fois est poussé par quelqu'un d'autre à une action justement trompée. Et donc lui, il vient de découvrir la mort. C'est pour cette raison que d'une certaine façon, il est innocent, parce qu'il ne connaissait pas les conséquences de ces gestes.
Ce que cela dit aussi, c'est que l'humanité porte en elle une faute, Romeo Castellucci.
Oui, dans le sens, il y a une phrase qui est dans le libretto que je trouve extraordinaire, quand Dieu, il éloigne Caïn, il condamne à marcher, donc c'est aussi l'homme qui marche, Caïn, il lui protège, mais il lui dit ta condamnation sera de vivre.
Ce qui est passionnant, en tout cas, c'est que ce crime raconté dans l'Ancien Testament, il est considéré comme crime fondateur de notre civilisation, de notre humanité. Quel sens est-ce que vous lui donnez, vous, à cette violence archaïque, originelle, archétypale, dont les images qui peuplent vos mises en scène se font souvent le reflet, j'ai l'impression.
Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de tout ça. Je pense, oui, justement, Caïn est considéré comme l'inventeur du langage, selon les traditions. Certainement, c'est le fondateur des villes, c'est un constructeur, selon certaines traditions, il a inventé la musique, c'est un artisan, c'est quelqu'un qui fait des choses. Et probablement, le fait qu'il est condamné en ce cas-là à faire des choses, c'est tout ce faire est une façon de remplir la manque. Et la manque et la violence sont une combinaison du concept du mal. Donc il y a un rapport, on a un rapport avec le mal. Le mal existe.
Quelle violence, quel manque, quel mal peut-être, Romeo Castellucci, y a-t-il à l'origine du geste qui vous pousse, vous, sans cesse, à créer des formes, des images, des mises en scène?
Je pense que, moi je le dis autant que spectateur, autant que quelqu'un qui se rend au musée à regarder des tableaux, je pense que le mal est construit, c'est comme un cadeau, c'est un endroit qui oblige nous à, comment dire, à reconfigurer le regard, l'écoute, notre position, notre corps. Donc c'est quelque chose, il s'agit comme d'une sorte de réveil. Réveille-toi. Ça, c'est peut probablement à voir avec la condition originelle de Kahn, mais je crois que le mal, c'est, comment dire, il y a un rapport. L'esthétique occidentale est née grâce, je dirais, entre guillemets, au mal. Pensez-vous à la tragédie grecque, qui est l'expérience la plus sublime de l'esthétique occidentale. Je dirais que c'est le noyau de l'esthétique. On peut penser à certaines pages aussi de l'Iliade, d'Homère. Donc il y a des condensés d'une telle violence qui sont incompréhensibles, mais on peut ressentir déjà dans ces noyaux tout le potentiel de la beauté occidentale.
Celle qui est ni dans le mal, ni dans la violence dans cette émission, et c'est peu de le dire, bonjour la bien-pensance, c'est la culture et son actualité peu dynamique, molle et apathique. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 10 janvier?
Bravo Milou, bien joué.
Joyeux anniversaire, Tonnerre de Brest, le héros à houppette, Tintin célèbre aujourd'hui ses 90 ans, apparu pour la première fois sous la plume de Hergé le 10 janvier 1929 dans le magazine Petit 20e. Le reporter en pantalon de golf reste aujourd'hui l'un des personnages de bande dessinée les plus célèbres au monde. Au total 24 albums, 250 millions d'exemplaires, quelques polémiques et un dernier mystère. La maison Casterman publiera-t-elle enfin Tintin et le Thermo Zéro, l'un des albums inachevés de Hergé? Le mystère reste entier.
Les dauphins sont des violeurs, ouais, méfie-toi des apparences, basique.
En avant la musique et ses victoires basiques, les nominations pour la grand-messe de la chanson française viennent de tomber. Résultat, avec trois citations chacun, Damso, Eddy de Pretto et Aurel San, qui avaient déjà cassé la baraque l'année dernière, mènent le bal. En plus des incontournables Chris, Vanessa Paradis, Étienne Dao ou Mieux Sec, on se réjouit de voir un peu de sang neuf, avec notamment l'entraînante Angèle, les 13 électriques The Blaze et la flamboyante Aya Nakamura. On est là, Dja Dja.
Je vous donnerai un conseil que m'avait donné Cocteau et que j'ai toujours écouté. Il m'a dit, quand j'écris une pièce, commence par la fin. Sache comment elle se terminera. À ce moment-là, tu peux commencer à écrire.
Pierre Barillet quitte la scène, surnommé le roi du boulevard. Le dramaturge âgé de 95 ans s'était éteint mardi soir avec son acolyte de toujours, Jean-Pierre Grédy. Il était l'auteur d'une trentaine de comédies dont certaines avaient fait le tour du monde et conquis Broadway. On se souviendra notamment de Potiche, créé en 1980 et remis au goût du jour en 2010 par François Ozon, Fleur de Cactus, repris récemment par Michel Faux, ou encore Le Don d'Adèle, qui en 1950 avait tenu l'affiche pendant plus de 1000 représentations. Salut patron. Tout doit disparaître. Peter Hook, bassiste de Joy Division, va vendre tous ses souvenirs liés au groupe culte des années 70. Affiches, vêtements, instruments, vinyles rares, bibelots et même les objets à valeur sentimentale. Hookie veut tout disperser. Il faut dire que le rocker n'est pas dans les meilleurs termes avec ses acolytes. Les anciens membres de Joy Division qui, après la mort de Ian Curtis, ont décidé de monter New Order, groupe tout aussi culte dont Peter Hook a claqué la porte en 2006. Bref, moins de Joy, plus de Division. Ouverture des enchères le 2 mars. Romeo Castellucci, invité de Boomerang ce matin à 2 semaines de la première à l'Opéra Garnier de Il Primo Omicidio, une mise en scène dans laquelle vous faites intervenir des enfants. Et c'est intéressant parce que c'est pas la première fois. Qu'est-ce qui se joue lorsqu'un enfant apparaît sur scène pour vous?
Quand il y a un enfant sur le plateau, il y a d'abord un être humain qui est dans un très fragile balancement entre la fiction et la vie. Ça, cet tremblement, ça fait qu'un corps d'un enfant est indépassable. Un corps d'enfant, c'est très puissant, c'est tout puissant sur le plateau. Il n'y a aucune possibilité qu'il y ait un corps étranger sur le plateau. C'est un lieu qui les appartient. Parce qu'il est au dehors, pas encore totalement dedans la fiction, mais pas encore totalement dans la réalité. Donc il y a une ambiguïté, une nuance entre la réalité et la fiction que je trouve extraordinaire.
Et le regard de l'enfant, je me demandais, qu'est-ce qu'il y a dans le regard d'un enfant pour vous ?
L'innocence. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont des corps, je dirais, parfaits. Et aussi parce que quand on regarde un enfant, on regarde toujours les massacres des innocents. Et le spectateur a un pouvoir sur le corps d'enfant qui est coulpable, d'abord. Et je pense que ça, c'est une attitude intéressante pour réveiller les regards qui deviennent problématiques. Donc c'est problématique de regarder certaines choses. Ce n'est pas un regard automatique, bidimensionnel. Je pense que, aussi grâce à la présence des enfants, le regard a son propre poids, je veux dire. Donc, on est en train de regarder, c'est quelque chose, c'est un fait. Et je pense que ce fait, c'est la racine, en particulier dans cette époque, de chaque politique.
On parle de l'enfant, on pourrait aussi parler chez vous, Romeo Castellucci, de l'animal, qui est absolument central dans votre travail. Vous n'avez jamais hésité à faire entrer des animaux sur le plateau, je pense au taureau, dans Moses und Aaron de Schoenberg, au bouc, dans votre tragédia Anagonidia, ou au chien dans Inferno. Est-ce que ce sera aussi le cas dans Il Primo Omicidio ?
Non, il n'y a pas des animaux.
Mais pourtant, Abel était berger.
Oui, il était berger.
Qu'est-ce que vous interrogez, en fin de compte, lorsque vous faites monter un animal sur scène ?
L'animal sur scène, c'est un point de crise. Et moi, je dois dire, j'ai travaillé avec des animaux absolument pas dressés. Donc, ils montent sur scène en tel que tel. Donc, ce sont des êtres vivants. Ils ne sont jamais forcés à faire des choses. Et ils passent et ils traversent le plateau et ils chargent le plateau d'une énergie, d'une électricité totalement différent. Donc l'air change. Mais justement, parce qu'ils sont comme des trous noirs dans les tissus de la fiction, c'est un point de crise. C'est pour ça que, justement, par un acteur, c'est difficile de jouer à côté d'un animal. Parce que l'animal, c'est celui qui gagne. L'animal est toujours dans une dimension de victoire. Aussi parce que, si vous voulez, il retour. Alors, l'animal sur le plateau, c'est le retour de l'animal.
Vous parlez tout à l'heure du regard de l'enfant. Qu'est-ce que vous voyez dans le regard de l'animal, Romeo Castellucci ?
La divinité.
La divinité ?
La divinité. C'est un regard qui nous dépasse. J'aime beaucoup la compagnie des animaux exactement pour ça, parce que j'aime beaucoup être regardé par des animaux. C'est une expérience spirituelle, je veux dire. Je dirais spirituelle, oui. On est mis à nous à travers le regard d'un animal. Donc on est des corps, donc les structures tombent. Et je pense que c'est simplement beau.
On va reparler d'innocence, de divinité, de beauté aussi, d'image et de corps, juste après Sinnerman, peut-être le plus beau morceau de Nina Simone en 1965. Vous êtes sur France Inter avec le metteur en scène Romeo Castellucci. Vous écoutez Boomerang.
Oh Sinnerman, where you gonna run to? Sinnerman, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day.
So I ran to the river. It was boiling. I ran to the sea. It was boiling. I ran to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Ah, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? C'est une question qu'on s'est retenu de lui poser, mais qui me brûle les lèvres depuis le début de cet entretien, avec son air préoccupé, son visage un peu creusé, vous savez, son regard assez impitoyable, exigeant, émouvant. On est quelque part entre le solaire héritier Montaigu et le ténébreux Heathcliff des Hauts de Hurlevent, avec ses petites lunettes cerclées de marron, tout en noir ce matin. Roméo Castellucci, invité de Boomerang. À 2 semaines de la première de sa nouvelle mise en scène, Il Primo Omicidio, un oratorio sur une musique de Scarlatti. Et ce qui m'intéresse dans l'histoire d'Abel et Caïn, c'est toute sa dimension tragique. Qu'est-ce qui fait pour vous l'essence même du tragique historiquement?
La tragédie, c'est un élément, je veux dire, c'est un objet esthétique, un objet sophistiqué et préparé dans tous les détails. C'est un piège, je dirais, non? Que les Grecs, ils ont inventé pour attirer la pensée, pour former la pensée.
Ce qui fait l'essence du tragique aussi, j'ai l'impression, c'est la place qui est faite aux dieux. Le héros tragique, on a toujours le sentiment que c'est celui qui a abandonné des dieux.
Je pense que oui, il y a l'abandon. Donc la tragédie grecque est basée sur ces concepts. Donc l'héros tragique est un héros seul, qui éprouve sur sa peau la solitude chez les dieux et chez les hommes.
Et ça, c'est passionnant. Comment, en tant que metteur en scène, Roméo Castellucci, le tragique vient-il s'incarner dans le corps des acteurs? Comment le faites-vous s'incarner?
Ça c'est difficile à dire. Il y a pas une méthode. Ça, c'est une chose qui m'étonne chaque fois. Je considère les acteurs comme des personnes très 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 courageuses. Et comme ça arrive, je sais pas. Aussi parce que je cherche surtout d'éviter une méthode ou un style.
Mais quand c'est là, vous le savez.
Oui, c'est clair. C'est clair, c'est objectif. Mais bizarrement, ça arrive seulement quand les rideaux s'ouvrent. Donc, c'est-à-dire avec le public et parmi le public.
C'est dans une confrontation de regard, de corps.
Peut-être que quelque chose se forme au milieu de la salle. Donc, au milieu de l'auditorium ou du plateau, il y a comme un voile qui est invisible, qui est le contact entre le regard et la chose regardée. Qui est, comme on peut imaginer, un troisième objet qui existe, qui est congelé entre les deux parties. Mais tout ça pour dire que le rôle du spectateur est fondamental. Ce n'est pas un accident. Je veux dire, c'est lui qui détermine le fait qu'un acteur peut effectivement incarner un personnage ou un esprit. C'est seulement grâce au rôle du spectateur, à sa place. Il faut donner la place au regard du spectateur. Je pense que c'est le personnage clé du théâtre.
Vous avez choisi vous-même un extrait de l'oratorio de Scarlatti,
oui,
en préparant cette émission. À quelles images est-ce que vous l'associez? Qu'est-ce que vous voyez quand vous l'entendez?
Moi, c'est un moment extrêmement touchant quand Cain, il vient d'avoir tué son frère, il découvre un cadavre qui est quelque chose de totalement inconnu. Donc, on dirait que le ciel tombe presque littéralement sur lui et lui, il ne sait pas si est plus juste de mourir ou de vivre. Donc il est vraiment dans une zone d'incertitude absolue. Donc, donc il y a cette interrogative, je dirais presque hamlétique, très moderne, très contemporaine. Je trouve que il y a des moments dans lesquels Cain, il y a un portrait de Cain très, très, très contemporain, avec une sensibilité vraiment très proche à nous. Et ces doutes de vivre ou de ne pas vivre, de mourir dans la vie ou de vivre dans la mort. Ça, c'est le texte. Hein? Il s'agit de poésie la plus haute. Et je pense que c'est d'une tendresse où l'innocence résonne ou rayonne comme une lumière. Je pense que ça, c'est un des moments où je peux pleurer.
Et quand vous en parlez, on a l'impression que vous décrivez des images. Quand est-ce que vous avez compris, Romeo Castellucci, que mettre en scène consistait peut-être d'abord à fabriquer des images?
Ça, c'est la chose qui m'a attiré le plus dans le théâtre. Quand j'ai compris que c'était une stratégie de chasse. Donc, il fallait préparer, connaître le territoire, connaître la proie, en ce cas-là c'est le spectateur, et préparer un corps, donc tout est préparé. Donc c'est totalement artificiel. Et ça c'est la grande leçon de la tragédie grecque, de l'esthétique grecque en général. Il n'y a rien de spontané, rien d'improvisé. C'est vraiment une écriture. Et donc il faut être très précise dans toute la ponctuation, je veux dire, tous les petits détails sont importants pour déclencher l'impression de regarder une chose pour la première fois. Voilà. Donc c'est tout au contraire de l'artificialité.
Comment il est né ce goût pour l'image si complexe dont vous parlez? Ça vient d'où? Vous vous souvenez des premières images qui vous ont marqué?
Certainement des tableaux anciens. Comme vous pouvez imaginer, dans les tout petits villages en Italie, il y a une église. Dans chaque église, il y a des peintures extraordinaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dispersé dans les tout petits coins, même des églises à la campagne, je veux dire. Et peut-être que mon rapport à les images est certainement né dans une paroisse à la campagne, où il y avait des corps nus, des corps torturés et des choses plutôt dures pour un enfant. Mais il y avait toujours un côté esthétique, une beauté énigmatique. Je pense que j'étais attiré par l'énigme, par le mystère, le fait que toutes ces images étaient sombres d'une certaine façon. Mais il y avait comme un appel, il y avait quelque chose qui m'appelait. Voilà.
Qu'est-ce que c'est, en fin de compte, pour vous, la beauté, Romeo Castellucci?
La beauté, c'est surtout un autre lieu et un autre temps. un altro spazio-tempo. C'est quelque chose qui coupe avec la réalité, mais par contre est capable de faire du réel. Donc, notre réalité, je veux dire, c'est, comment dire, suspendu par un instant, mais dans ce moment, on découvre d'être réel et d'avoir un corps, un char, et on se rend compte d'être vivant, voilà. Mais c'est un instant, c'est pas, il n'y a rien à voir avec la mystique, hein. C'est vraiment un sentiment que je peux éprouver face à un tableau de Andy Warhol. Mais c'est un instant, c'est un dard qui pénètre dans ta peau. Ça, c'est la beauté, je pense. Ça peut être parfois aussi désagréable, hein, mais c'est quelque chose qui te réveille, voilà.
Merci infiniment, Romeo, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Il Primo Omicidio de Scarlatti sur un livret d'Antonio Tobini. Votre nouveau spectacle sera au Palais Garnier du 22 janvier au 23 février. Et ça promet évidemment d'être un choc tout de suite. Les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Le soir, déplie ses voiles sombres. Enveloppe l'étoile, les trottoirs et les bois. Et là dans la pénombre, personne ne nous voit. Infidèle égaré sur les pavés, au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux des perles en silencieux. Au fond de nous, l'étincelle dans le canot rageux, cet éclair dangereux des héros silencieux.
Dao sur Inter, l'étincelle, et tout de suite l'étincelle des médias, justement, Sonia De Villers.
C'est gentil, Augustin. L'Italie, on continue, en ouais. Italien, nous. Nicolas Aminiti va parler italien. Ciao, à demain.